Question d'islam par Ghalib Bensheikh. Aujourd'hui, nous parlons d'art, de culture, d'art comme miroir du sacré, d'élévation spirituelle, de musique. Et j'ai plaisir à vous présenter nos deux invités, Kutsi Erguner, maître Duney, bonjour, vous êtes musicologue, vous êtes héritier d'une grande tradition soufie, et notamment la tradition Mevlevi. Vous êtes professeur de musicologie à l'Observatoire de Rotterdam, un ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, à l'artiste de l'UNESCO. Et à vos côtés, Carole Latifa Amir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, journaliste culturelle et cofondatrice du collectif d'artistes Derviche Project. C'est quoi ce collectif, Carole Latifa Amir?
C'est un collectif assez récent avec des artistes de talent et confirmés. Je l'ai cofondé avec un compositeur classique qui s'appelle Théophile de Valensbourg. Après, c'est un besoin qui s'est ressenti à un moment donné de fonder un collectif assurer quelque part une rencontre entre la culture d'islam et la culture française, puisque nous sommes Théophile et moi-même, et musulmans et français, et qu'il n'y a pour nous pas de séparation entre l'art et la musique française occidentale et la culture d'islam.
Oui, c'est simplement l'anglicisme qui m'avait un peu interpellé, c'est Derviche Project, donc c'était pour ça que je vous ai posé tout de suite la question. Nous aurons peut-être à y revenir. Kutsi Erguner, j'ai vraiment une grande joie à vous accueillir à l'émission Questions d'Islam. On vous attribue cette phrase « aiguiser notre raison pour mieux guider notre cœur ». C'est que de nos jours, il y aurait une tendance à voir dans la tradition soufie une manière peut-être pour certains d'abdiquer la raison. Alors que pour vous, elle est fondamentale. En tout cas, l'outillage intellectuel, c'est aussi important dans l'élévation spirituelle.
Absolument. Et comme on dit, il y a beaucoup de chemins qui amènent vers Dieu. Et la raison, c'est une des lumières qu'il ne faut pas ignorer. Et d'ailleurs, on dit en arabe, « Aql al-yakin », c'est la certitude avec la raison qui amène à « Ayn al-yakin », avec la vision, le témoignage même de la vérité, et après, à quel yakin, si Dieu le permet, être proche de la vérité, n'est-ce pas? Donc la raison, c'est un outil qui, comme vous dites, malheureusement, dans les chemins spirituels de beaucoup de traditions, on essaye de le mettre de côté, alors que sans la raison, on n'avance pas beaucoup. Mais la raison, ce n'est pas l'unique chose, n'est-ce pas? Parce qu'on connaît que le mirage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam...
Le mirage étant l'ascension céleste.
Voilà, dans l'ascension de prophète, il y a un moment, l'ange Gabriel lui dit, maintenant je ne peux pas faire un pas de plus. C'est-à-dire, la raison a une limite. Après cette limite, la raison ne peut pas faire un pas de plus. Mais jusque-là, il faut être accompagné par la raison.
Alors, surtout quand il s'agit d'une raison raisonnante, instrumentale, etc., qui aurait donc ou qui a ses limites. Et alors, ça laisse place à quoi? À l'éruption de la lumière, à une autre forme de connaissance?
Oui, mais enfin, en parlant de la raison, on considère qu'il y a deux raisons. Il y a aql ma'ash, c'est-à-dire la raison qui développe les intérêts d'ici-bas, et il y a aql ma'ad, c'est-à-dire la raison qui développe une certaine connaissance pour au-delà. Donc c'est de cette deuxième raison que nous sommes en train de parler. Et donc le Derviche Project, je suppose, amène à ça, j'espère qu'il amènera beaucoup de gens à ça. Et je voudrais faire une remarque, parce que vous avez dit, le nom de cette émission, c'est « Question de l'islam ». Alors moi je dirais plutôt, parce que c'est vrai que l'islam est devenu une question aujourd'hui pour beaucoup, même un problème politiquement pour certains pays, et je dirais plutôt la civilisation de l'islam que nous devons parler, et donc le Derviche Project, peut-être, c'est un des projets qui devait amener à une vision plutôt de civilisation de l'islam.
Alors, mon cher Koutsi Abguner, en réalité, l'émission s'appelait Culture d'Islam avec un S au pluriel. Du temps du regretté Abdelwahab Madeb, son producteur originel. Et là, eu égard aux problématiques islamiques, l'idée était de parler, de questionner effectivement à la fois cette civilisation, cette tradition religieuse qui la sous-tend, et puis essayer un tant soit peu d'y amener quelques pistes et quelques réponses. Carole Latifa Amir, vous dites que l'art et le soufisme, enfin la voix soufie, sont intimement liés. Il y a une correspondance entre l'expression artistique et l'élévation spirituelle.
Je vais vous parler de ma rencontre avec Koutsi. Koutsi, je l'ai rencontré à Lima, à l'Institut du monde arabe, dans une conférence sur justement l'art sacré. Et Koutsi a un peu changé ma façon de voir en disant, de toute façon, il n'y a pas d'art soufi. Mais il y a une sensibilité particulière des soufis à la musique, à l'art. Et Koutsi avait bien insisté sur le fait qu'il n'y a pas de séparation justement entre art sacré et art profane. Ça, c'est un point que je voulais dire puisque c'est notre première rencontre. Ensuite, il est difficile quelquefois par rapport à ces questions d'islam, à ces quelquefois problèmes, de parler d'art parce que, puisque Koutsi parle de raison, de connaissance et puis de pensée, on est en ce moment dans une phase où la pensée est tirée par le bas, puisque même quelquefois en France, on me dit « Ah, islam et musique, ah, comment est-ce possible? Comment vous y arrivez ?» Donc, finalement, on est confronté en ce moment à des problématiques qui sont en deçà de ce qu'un homme ou une femme de cette époque devrait penser. Et justement, on a parlé du Mi'raj. Il y a un moment...
En expliquant le Mi'raj, encore une fois, que c'est cette chevauchée nocturne et cette ascension céleste que le prophète de l'islam a entrepris pour aller dans l'empyré céleste, dans le ciel, pour approcher le trône divin.
Et il y a un moment qui est important, et important aussi pour peut-être un converti ou une convertie comme moi, mais pas uniquement, c'est l'égire dans notre, je dirais, dans notre vie spirituelle.
L'égire étant une migration, une fuite, un exode.
Exactement, et aussi l'égire dans la pensée. Et c'est ce fait aussi de partir d'un point de départ, de quitter ce point de départ et de prendre du recul aussi, sortir un peu de sa pensée. C'est finalement un petit peu la méthode de François Julien. Et finalement, on se rend compte que maintenant, on est tiré par le bas parce qu'on est plus dans des questions d'opinion que de pensée. Et on travaille assez peu sur la notion du beau, sur ce genre de choses, notamment au niveau de la pensée. J'ai aimé rencontrer Koutsi parce que Koutsi parle beaucoup aussi du soufisme qui vient d'Asie centrale, et c'est ce pont entre la pensée grecque et la pensée, je dirais, asiatique, chinoise. J'ai beaucoup appris en ce sens-là avec Koutsi.
Alors, Koutsi Abguner, vous êtes nommé artiste de l'UNESCO pour la paix, et ceci c'est pour rendre hommage, saluons vos efforts durant toute votre carrière pour maintenir vivant le patrimoine à la fois musical, culturel, spirituel de sa tradition mavlavi, mais pas uniquement. Vous êtes aussi traducteur du Mathnawi, pour certains c'est même un second Coran, et j'ai beaucoup apprécié, j'étais sensible à cette idée que vous le dites, nous n'avons pas, ou les gens n'ont pas à lire le Mathnawi sans avoir le Coran à côté. Y a-t-il une correspondance entre les deux ouvrages, les deux livres, si je puis dire ?
Absolument, parce que si vous regardez le premier commentaire qui a été fait au début du XVIIe siècle par Cheikh Ankaraoui, qui nous éclaircit les liens entre chaque vers du Mathnawi avec un verset du Coran, ou avec une hadith de prophète. Et cette tradition a été gardée dans la confrérie Mevlevia, parce que quand on enseigne le Mesnevi, c'est toujours avec ce lien, avec ce parallèle avec le Coran. Peut-être Rumi n'a pas vraiment pensé de faire ces liens quand il a dit c'est, parce que c'est très spontané, c'est long poème. Et, mais comme il les vivait d'une manière permanente, sa foi, donc tout ce qu'il disait, c'était un lien avec le Coran. Donc on peut facilement faire ces liens à travers ces paroles. Mais pour revenir à cette question de l'art, parce que c'est une question très importante, c'est pas seulement propre à l'islam, comme vous avez dit. Bon, les Grecs anciens, on connaît Platon, il a parlé de l'art, de la musique dans sa République. Et on sait que l'art musical, c'est vraiment le reflet de la vie intérieure d'un homme. En général, tous les arts, parce que c'est pour ça que le tasawwuf, le soufisme est important, parce que avant de développer seulement un savoir-faire, mais aussi savoir ce que faire avec. Donc, la raison de l'art, c'est justifié avec le tasawwuf, avec le soufisme, avec la foi. Donc le lien est nécessaire, sinon ça devient un art gratuit, c'est qui devient une exposé d'un savoir-faire et la finesse d'un savoir-faire, mais sans raison. Donc lui donner une raison, un niyat comme on dit en arabe, une maqsad, une finalité qui doit être ce que on vit. Donc c'est pour ça que dans le conflit, particulièrement Mevlevia, il était important que chaque disciple, chaque dévot, apprenne la poésie, la calligraphie, la musique, et donc toutes ces sensibilités. Mais ce n'est pas propre aux Ottomans, parce que les Byzantins, ils avaient la même chose. Il fallait absolument développer une sensibilité vers les arts. Un homme sans cette sensibilité n'était pas forcément un homme considéré.
Carole Latifa Amir, j'ai dit en début d'émission que l'art est ce miroir du sacré, parce que parfois l'ineffable, l'indicible, ce qu'on n'arrive pas à exprimer, eh bien, se reflète à travers les arts ou à travers l'art. Or, l'art musical est ce qui nous transporte. On attribue à Nietzsche d'avoir dit que sans la musique, la vie eût été une erreur. Et si je ne veux pas être trop sévère ou excessif, j'ai envie de dire que nous ne pourrions pas nous attendre à quelque chose de bon de quelqu'un qui n'est pas sensible à la musique. Et donc, vous, dans votre projet là des derviches, Dervish Project, la centralité de la musique est véritable, elle est là. C'est elle qui exprime, avec la danse, cette spiritualité.
Alors nous, c'est pas uniquement à travers la musique, mais pour rebondir et puis remettre dans le contexte de l'émission, il y a Rumi qui, pour rejoindre Nietzsche, même s'il y a un écart, qui disait « Dans la cadence de la musique est caché un secret, si je le révélais, il bouleverserait le monde ». Alors ça, c'est une chose.
Rumi, 1207-1273, une trajectoire de vie qui se confond un peu avec le XIIIe siècle et qui est inhumée à Konya. Je vous le dis, pardon, je vous ai interrompu.
Non, pas du tout, c'est un compliment.
Que vous, en ayant traduit le Masnaoui, donc l'œuvre majeure de Rumi, vous êtes en lien aussi avec cette tombe de Rumi à Konya.
Pour vous expliquer, c'est normalement chaque confrérie a donc son maître inspirateur. Moi, j'emploie le mot maître, disons l'attachement à une personne qui est donc l'exemple d'une tradition qui le lie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour les Mevlevia, Rumi est vraiment le personnage. Donc, on a et eu, durant l'Empire ottoman, 110 zaviyas dans tout l'Empire ottoman, du Sarajevo jusqu'à Bagdad, à Jérusalem aussi, il y en a eu, en Libye, enfin partout. Donc, ces confréries enseignaient le Mesnevi de Rumi, les arts qui sont liés à ça, et donc il y avait tout un enseignement, mais tout ça s'était attaché spirituellement au mausolée de Rumi, où il vivait le maître central qui était le descendant de Rumi lui-même, qu'on appelait le Chelebi, la famille de Chelebi.
Oui, alors je rattrape ma discourtoisie de tout à l'heure. Vous étiez sur votre lancée pour parler de la musique. Si Rumi devait révéler son secret, ça bouleverserait le monde. Alors qu'est-ce que vous faites avec votre projet des derviches tourneurs?
Mais ils sont en train de bouleverser le monde.
Alors déjà, derviche ne veut pas dire forcément derviche tourneur. Sakoutsi nous en parlera tout à l'heure. Mais lorsque nous avons pris le nom de derviche, ça fait appel plus à l'humilité. Aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'aujourd'hui, mais l'art a tendance un peu à exacerber l'ego. Et le fait d'être et en collectif et dans une optique d'être derviche, c'est cette humilité en art que l'on recherche. Alors, est-ce qu'on l'atteint? Je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, puisqu'on parlait de niya, d'intention, c'est l'intention de départ. Cette humilité en art a été aussi abordée par Titus Burckhardt. C'est important quand on parle d'art d'évoquer Titus Burckhardt, puisque après lui, il n'y a pas eu finalement tant de théoriciens par rapport à l'art sacré, par rapport aussi à l'art en islam. Voilà. Après, nous proposons aussi de reprendre cette réflexion sur l'art. Donc, il y a le côté extérieur, c'est-à-dire spectacle, concert-lecture. Mais il y a aussi toute cette réflexion sur l'art qui nous intéresse. Et c'est pour ça que je suis aussi là aujourd'hui. C'est que l'on montre, mais on essaie aussi de réfléchir. Et quand je parlais de la pensée tout à l'heure, c'est aussi prendre du recul sur la pratique artistique. Et puis sur ce qu'est aussi le soufisme dans l'art actuellement. Kutsi réfléchit énormément à cela. C'est-à-dire, c'est respecter une tradition. Mais en même temps, comme dirait François Julien, il n'y a pas d'identité culturelle, je dirais la soufie. Il y a une culture, et la culture, elle n'est pas figée. Donc, en tant qu'artiste contemporain, c'est respecter la tradition, ne pas en faire tout et n'importe quoi, ne pas en faire un produit de consommation, mais c'est aussi... ne pas figer la culture, ne pas s'enfermer, puisque finalement l'art ou la culture d'islam, c'est aussi, moi je la vois pas comme, ce n'est pas religieux, en tout cas nous, notre façon de faire, on ne l'enferme pas dans le dogme, on n'a pas d'existence dans le dogme, on a cette dimension plus spirituelle, on y reviendra justement. Yes.
Alors, la culture n'a pas à être figée, ni cryogénisée, ni calcifiée. Elle est vivante, elle évolue. En revanche, vous, Kutsi Ergüner, et notamment dans votre ouvrage « La flûte des origines », vous attirez l'attention, en tout cas, à propos d'un certain soufisme dit « New Age », en quelque sorte. Comment peut-on faire la distinction entre ce qui est authentique, ce qui relève d'une véritable aspiration, quand on est inspiré, de ce qui relèverait d'une forme de consumérisme?
Mais il y a deux choses distinctes. Premièrement, mais il y a les confréries. Les confréries, par exemple, celui de Mevlevia, a une histoire du 7e siècle. Donc, il a développé une sorte de ce qu'on appelle le adab, une façon de faire, une façon de vivre en communauté avec des règles bien précises. Donc, pour devenir un disciple, il faut quand même une initiation. Donc, aujourd'hui, cette chaîne de lien avec le confrérie est brisée. Donc, on est face à une proclamation de spiritualité sans lien avec ni religion, ni avec cette, disons, tradition de tasawwuf ou de soufia. Donc, c'est une situation tout à fait nouvelle qui correspond à un besoin de la modernité. On ne peut pas le nier. Mais, comme un artiste, vous voyez, moi, je vois les artistes comme des abeilles. Si vous mettez des abeilles dans un jardin d'acacia, ils vont faire un miel d'acacia. Si vous les mettez dans un jardin de rose, ils vont faire un miel de rose. Donc, aujourd'hui, ces abeilles, ils sont nourris de quoi? De glucose et de poubelles. Donc, c'est vrai que on souffre de ça. Donc, en parlant de musique, on ne parle pas de n'importe quelle musique. Une musique qui est nourrie de vraies, des choses vraies, comme le soufisme, comme la religion, comme la foi, comme toutes ces transmissions de savoir et de réflexion sur la foi, la religion, sur le chemin qui mène vers Dieu. Donc si on met tout ça de côté, on arrive à New Age.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et nous parlons aujourd'hui d'art, de musique, de spiritualité. Comment faire pour avoir cette manière de distinguer, de discerner entre une spiritualité authentique, vivante et ce qui relève peut-être d'un succès d'année ou ce que vous avez appelé donc peut-être les égarements du New Age. Comment justement revenir à cette spiritualité vivante, Carole Latifa Amir?
C'est revenir aux sources, revenir aux écrits des grands maîtres, donc dans le sens maître de pensée aussi, maître spirituel. Et c'est, nous, notre façon, au sein du collectif, de ne pas être dans l'erreur, en tout cas d'essayer de ne pas être dans l'erreur, parce que c'est prétentieux de dire qu'on n'est pas dans l'erreur, notamment par rapport à la poésie, puisque nous parlons musique, mais il y a aussi la poésie, qui est le complément de l'enseignement dans le soufisme. Donc ça, c'est... Une des façons aussi de ne pas être dans l'erreur, c'est de lire, traduire aussi, parce qu'on a un problème, c'est qu'il y a encore assez peu d'ouvrages traduits, il y en a certains. Mais Coutsi dit souvent, on ne peut pas lire Rumi si on n'a pas lu avant Sanaï, Fariduddin Attar. Donc,
vous avez évoqué deux autres grands maîtres, et notamment Fariduddin Attar, l'apothicaire, le parfumeur, dont il se serait inspiré,
Absolument. Oui. Absolument.
Mais même dans le Mesnevi, il y a des histoires qui sont directement inspirées de ce que Sanaï a écrit. Oui. Alors c'est vrai que Sanaï est peu traduit en français, oui. Peut-être même pas du tout.
Alors, je voudrais dire un mot sur la question d'authenticité, parce qu'aujourd'hui, on cherche l'authenticité, mais quel est la critère de cette authenticité?
Justement.
Alors, donc, on dit en arabe, Allah al-alam, c'est Dieu seul qui le sait. Donc, moi, si je parle de l'authenticité, je parle selon un critère d'une tradition de Zaviya, de Tariqa, qui est une chemin d'initiation. Donc, celui-ci est brisé
la
aujourd'hui.
Zaviya... C'est pour traduire simplement, c'est étymologiquement, c'est plutôt un coin,
un angle,
mais qui est devenu un lieu aussi d'initiation et d'enseignement.
Absolument.
Et qui donne un lieu à des confréries. Absolument. Et des voies spirituelles.
Absolument. Donc, on peut mesurer cette authenticité selon ce critère. Mais il y a aussi une autre authenticité qu'on doit laisser ça à Dieu, à le savoir. Donc c'est au fond de chacun, il n'y a pas de critères pour cela.
Oui, vous évoquez ce discernement entre l'éternel et l'éphémère, et c'est grâce à ce discernement que la voie soufie peut être établie.
D'ailleurs, vous savez qu'un des noms de Coran, le Kérim, c'est Kitab al-Furqan.
C'est le discernement.
Voilà, les livres de discernement.
Donc. Oui, 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 oui. Et vous ajoutez toujours que sans la foi, il ne peut pas y avoir de voie, bien entendu, et que la foi est un océan et la voie spirituelle est-elle une barque? S'il n'y a pas de mer, il ne peut pas y avoir une barque.
Absolument.
Qui y flotte.
Ça n'a pas d'utilité. On dit d'ailleurs Shariat, Tariqat, Ma'rifat et Hakikat.
Alors, les quatre mots arabes là, que vous avez évoqués, mais vous les prononcez à la manière turque.
Oui.
Donc, il y a à la fois la loi,
oui.
Il y a la voie, oui. Il y a aussi la connaissance et puis la vérité.
Et puis la vérité.
Et ça va dans ce sens-là, ça va crescendo.
La connaissance et la vérité, on peut renverser. D'abord, peut-être ça peut être la vérité et la connaissance, ou connaissance et la vérité, peu importe.
Kaol Latifa Amir. Pour vous, l'essence de la profession de foi, c'est-à-dire l'attestation de foi, la shahada, c'est d'abord il n'y a pas de divinité, donc il y a une forme de négation, pour affirmer la divinité unique de Dieu un, clément et miséricordieux, et ça, ce qui explique les causes et les effets de l'existence et de la création.
Justement, quand on parlait de la vérité, ça m'a rappelé Ibn Arabi dans son traité de l'amour qui parle de l'interattraction entre les noms divins. Alors, il y a interattraction entre les êtres vivants, entre Kutsi et moi, puisque finalement, ces paroles deviennent les miennes. Et j'espère un jour inversement. Cette notion d'interattraction des noms divins, c'est important. En fait, finalement, depuis le départ, ce que nous dit Kutsi, c'est que la beauté se couple aussi avec la vérité. Et que à partir du moment où l'œuvre, sa finalité, ce n'est que d'être belle, il n'y a plus cet accès, finalement, à une connaissance du divin. Il n'y a plus accès aussi à cette vérité. Et alors, ça fait déjà un moment que je voulais citer, mais puisqu'on a du temps, je suis venue avec une citation de Vassili Kandinsky, puisque son ouvrage du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier, relate ce qu'a dit Kutsi. Et c'est intéressant puisque Kandinsky n'était pas soufi. Une œuvre d'art n'est pas belle, plaisante, agréable. Elle n'est pas là en raison de son apparence ou de sa forme qui réjouit nos sens. La valeur n'est pas esthétique. Une œuvre est bonne lorsqu'elle est apte à provoquer des vibrations de l'âme, puisque l'art est le langage de l'âme et que c'est le seul. C'est important aussi de voir que il y a des passerelles. Nous travaillons aussi sur ces passerelles au sein du collectif pour éviter, puisque la tradition soufie, comme le souligne Kutsi, elle s'est arrêtée aussi. Hein. On rappelle qu'en 1925, le soufisme a été interdit en Turquie.
En Turquie, oui.
Donc, à partir du moment où cette tradition, finalement, on ne sait plus trop où la trouver, eh bien, nous devons aussi chercher d'autres ressources, d'autres passerelles pour rester dans cette vérité-là.
Kutsi Ergüner, pour revenir, sans vouloir porter l'anathème ni sur les uns ni sur les autres, vous dites qu'entre les courants simplificateurs et littéralistes, et on pense aux fondamentalistes, etc., d'un côté, et les autres qui utilisent le soufisme un peu comme une sorte d'étendard sans connaître son essence, qu'il y a une voie médiane, exigeante, celle-là, et qui est celle d'étudier, de connaître le patrimoine aussi des anciens, des maîtres, et que cette chaîne de transmission de maître à disciple est fondamentale.
Absolument. Je voudrais évoquer un mot ici, zawk.
Qui est la saveur, le goût.
Le goût, la joie spirituelle, la joie interne. Et Rumi dit une phrase. Il y a certaines personnes qui ont une joie parce qu'ils connaissent. Et il dit, moi, je connais parce que j'ai cette joie. Donc, au début de cette émission, on a parlé de la raison comme une guide vers la vérité, mais il y a aussi ce zauk qui est important, une joie.
Donc, il y a une approche gustative de cette vérité,
voilà,
finalement.
Voilà. Ce qui fait que Rumi, quand il entendait le Ney, quand il entendait une musique, quand il entendait une poésie, une voix qui chantait, ça le mettait en émotion. Une émotion qui n'était pas gratuite. C'était une sorte de zikr, une invocation de Dieu. Et parce qu'il y a ce verset de Coran qui dit que dans l'univers, tout en train de faire le tasbih.
Le gazouillis des oiseaux est une sorte de concélébration dans un concert cosmique.
Absolument.
Pour rendre hommage au créateur premier.
Absolument. Donc même le martèlement de bijoutier qui a provoqué le premier sema qu'il a commencé à tourner en plein milieu du bazar de Konya, c'est pour n'importe qui, c'est ça, juste de martèlement. Mais pour lui, c'était une sorte de zikr. Donc, une oreille sensible, sensibilisée.
Le dikr étant la remémoration du nom divin.
Voilà. Si on a, d'une manière permanente, ce goût, cette joie en nous, n'importe quelle chose peut provoquer une émotion, et dans le cas de quelqu'un qui avait une immense connaissance comme Rumi, ça devient le poème, ça devient le sama, ça devient la musique, ça devient tout, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas oublier, nous avons aujourd'hui un islam qui est très lié à un dogmatisme sans cette joie qui manque. C'est pour ça que le tasawuf est important, c'est pour ça qu'on dit que l'islam sans tasawuf, ça ne va pas, mais le tasawuf sans l'islam, ce n'est pas non plus une chose.
Et donc, de ce point de vue-là, la tradition soufie est au cœur de la vie spirituelle islamique, et ce n'est pas à l'orée ou à la lisière de cette tradition. Et un homme croyant, un homme ou une femme, qui n'a pas cette joie, ça me fait rappeler encore une fois Nietzsche qui disait... Je me permets de l'évoquer pour une tradition religieuse sœur. Quand on voit les chrétiens sortir de la messe avec leur mine patibulaire, on n'est pas sûr que Dieu les a sauvés. Donc, mutatis mutandis, pareil, quand on voit certains fondamentalistes avec leur mine, il n'y a pas cette joie intérieure et donc ça ne sert à rien d'avoir une foi qui rende aussi aigrie et
absolument.
Aussi maussade.
Absolument. Mais je peux juste rajouter à ces gens, parce que dans les livres de Aflaki, qui a écrit la géographie de Rumi, oui. Rumi, il dit, Dieu est entièrement ce zevk. Mais il dit, je ne parle pas d'un zevk charnel, je parle d'un zevk qui, seulement les élus qui l'ont.
Oui. Alors cette saveur, ce goût, est pour Dieu une manière intellective ou gustative de le connaître, et ce n'est pas quelque chose de purement rationnel. Oui, Carole Latifa Amir.
Alors moi j'avais quelque chose à rajouter pour compléter Kutsi, qui est finalement un extrait du maître spirituel de Rumi, Bahauddin Veled, son père, donc 1152-1231 pour ces dates. Alors, qu'est-ce que dit Bahauddin Veled, puisqu'on nous demande justement de...
D'aller vers le source.
Exactement. Quelqu'un m'a demandé ce qu'est la connaissance dont je parle et comment l'on ressent l'amour que j'évoque. J'ai répondu, si vous ne le savez pas, que voulez-vous que je vous dise? Et si vous le savez, que voulez-vous que je vous dise? La saveur de l'expérience de l'amour ne peut être expliquée. Et aucune description n'en révélera jamais le goût à quiconque.
Il y a aussi un poème de Younous Emre, qui est notre grand tasawuf, à qui on a demandé qu'est-ce que c'est le ashq, rishq.
Le ashq, c'est le désir ardent et c'est l'amour.
L'amour, voilà. Il a dit, deviens-moi, tu le sauras.
Et je m'empêche aussi de penser à cet apologue, une parabole du fou de Layla, Majnoun, qui pour aller la rencontrer, il était sur un chameau et bercé par les pas de sa monture, il s'endormit. Alors, qui veut encore la raconter ou finir, Kutsi Erguner?
Oui, c'est parce que l'histoire de Layla Majnoun, c'est aussi un enseignement de Tassavouf. Comme vous le savez, il y a une Mesnevi qui a été écrite là-dessus, parce que le seul Mesnevi, ce n'est pas celui de Rumi, il y a plein de Mesnevi qui est une forme poétique en réalité. Ce qui est important dans cela... Nous considérons que l'amour de créature est un pont pour aller vers l'amour de créateur. Donc, on dit « ashk mejazi », c'est-à-dire métaphorique.
Oui,
et
ou allégorique.
Allégorique, ou « ashk hakiki », l'amour du vrai. Donc, les deux sont liés, mais il ne faut pas s'arrêter dans la métaphore. La métaphore, ce n'est qu'un pont pour traverser vers une vérité. Donc, ce qui a vécu Mejnoun dans son amour avec Leila, il a vécu une passion très forte dans laquelle il ne pouvait même pas distinguer le chameau avec Leila. Donc, il embrassait le chameau. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas Leila, c'est le chameau. Elle dit, mais pour moi, tout est devenu Leila. Tout est devenu le bien-aimé.
Et d'autant plus qu'il s'était endormi, il s'était assoupi. Et au lieu d'aller à la demeure de sa bien-aimée, de Leila, le chameau... presque instinctivement est retourné à l'écurie, si je puis dire. Et alors, finalement, on se laisse guider, on se laisse voguer, on erre quand on aime.
Oui.
Du verbe errer, hein, donc c'est pas pour parler seul, mais ça me fait rappeler aussi un autre apologue, c'est cet hérisson qui est devenu amoureux d'une gazelle. Et comme elle est loin et il n'arrive plus à l'atteindre, il demandait à d'autres animaux de lui indiquer où se trouve la gazelle. Parfois on lui indiquait où est-ce qu'elle est, parfois non. Et à un moment donné, l'un d'eux, de ces animaux, le fennec peut-être, qui était un peu plus dur contre lui, a dit « Tu t'es vu, toi, et tu oses porter ton regard sur la gazelle ?» Et la réponse de l'hérisson, c'est que « Mais mon bonheur est d'être sur les traces de la gazelle. » C'est ainsi, Rutsier Guner, le cas de l'aspirant, de l'aimant, de l'homme ou de la femme spirituelle.
C'est pas forcément, parce que j'ai eu toujours ce problème quand on parle de l'amour et du bien-aimé. Parce que dans notre langue, il n'y a pas de sexe de mot, n'est-ce pas? Donc le bien-aimé, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un garçon? Peu importe pour nous. C'est vraiment le piège dans lequel on tombe pour aller vers une passion du vrai. Et alors, évidemment, il faut quand même évoquer ici, il n'y a pas seulement l'histoire légendaire de Leila Mejnoun, il y a Farah de Shirin, il y a Hiri Ranjha dans le Punjab, qui est encore actuellement, après tous les vendredis, devant tous les mosquées de Pakistan et l'Inde, on récite des poèmes de Hiri Ranjha. C'est une grande tradition. Et c'est pas seulement une histoire d'amour, c'est à travers cette histoire d'amour, on est en train d'enseigner comment la passion peut amener l'homme vers une vérité.
Oui. Et Carole Latifa Amir, revenons à ce que vous faites dans ce collectif, Delvish Project. Alors, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas que la musique, il y a la danse aussi, il y a d'autres formes d'art.
Oui, il y a d'autres formes d'art, puisque par exemple, nous sommes aussi très inspirés par l'œuvre de Rachid Qureshi. Donc, il n'y a pas de séparation, en fait. Ça peut être la calligraphie, nous intégrons... En fait, même à un spectacle, nous intégrons, ça peut être par exemple les dessins de Rachid, que nous retravaillons avec une artiste plasticienne, par exemple, comme pour le prophète de Khalil Gibran. Il y a aussi la danse, il y a... voilà, donc c'est complet.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons effectivement d'amour, de poésie, de musique, d'art comme miroir du sacré avec Rutsier Guner, maître du Ney, musicologue vous-même et vous êtes héritier dans d'une grande tradition soufie, Mevlevi, et vous enseignez notamment la musicologie à l'Observatoire de Rotterdam.
Conservatoire, pas observatoire.
Ah pardon, c'est le conservatoire, vous avez tout à fait raison, et c'est Malan qui a fourché, et avec vous, Carole Latifa Amir, qui a fondé avec Théophile de Valensbourg le collectif des derviches tout court, puisque vous ne voulez pas préciser qui sont tourneurs, qui mettent au cœur de vos préoccupations l'art aussi, l'art complet, poésie, musique, danse et dessin. Vous vouliez parler d'amour, alors,
oui,
Carole Latifa
Amir. Pour remettre justement en lien notre thématique du départ, hein, comme vous l'avez dit dès le départ, l'art miroir du sacré. Eh bien, c'est vrai que Ibn Arabi est un penseur. Éric Geoffroy, président de la Fondation Conscience Soufie, dit souvent qu'Ibn Arabi est un penseur pour aujourd'hui. Eh bien, dans son traité de l'amour, justement en tant qu'artiste, je trouve que c'est intéressant de relire ce traité de l'amour, puisqu'il insiste sur le fait que Dieu, alors là je cite, a créé l'amant de ces deux noms, l'extérieur et l'intérieur, pour faire de lui un monde tout à la fois manifesté et occulté. Justement, l'art, je dirais, spirituel, et pas que dans le soufisme, possède ces deux qualités, l'extériorisation par les formes et les sons. Voilà pourquoi le collectif est complet, c'est-à-dire il y a et les sons et les formes. Donc il y a ce côté manifesté, dont parle aussi Titus Burckhardt, et il y a aussi ce rôle de médiateur vers une connaissance intérieure et, je dirais, plus occultée du divin.
Il y a, en ce qui concerne la Turquie, on a eu un problème, une révolution culturelle très profonde et vraiment radicale, qui a donc interdit le soufisme, qui a interdit les tariqas, qui a changé l'écriture, qui a transformé la langue, etc., etc. Donc, devant cette, disons, révolution radicale, les milieux de confréries ont eu un souci. Ont eu un souci, comment assurer la transmission, une continuité certaine de cet héritage. Et donc, évidemment, moi, je me suis trouvé à travers ma famille, du coup, avec de mon jeune âge, d'avoir une responsabilité, disons, de faire perpétuer quelque chose, sans prétention. Je ne prétends pas de savoir tout cela, mais il s'est trouvé que l'histoire s'est écoulée sur moi. Donc, je voudrais revenir quand même, le mot amour est resté un petit peu dans le suspense.
Ah ben, il restera toujours en suspense, mais je vous en prie.
Non, parce que moi, je suis très gêné, parce qu'on exploite beaucoup le mot l'amour, spiritualité,
les galvaudés, c'est
etc.
Vrai.
Parce que ce sont des mots vides maintenant, ils se sont vidés de leur sens en réalité. Quel était le concept de l'amour de Rumi ou Ibn Arabi? Est-ce qu'on le comprend de la même manière aujourd'hui que eux? Ça, j'en doute. Et quand j'ai dit il faut revenir aux sources, à notre ami Latifa, ces sources ne sont pas forcément de poèmes, de poésie. Ce sont les teskiretil evliya, c'est-à-dire les radiographies de ces personnages qui sont des références du tasawuf. Comment ils ont vécu? C'est leur vie qui est exemple de l'amour. C'est à travers l'exemple de leurs paroles et de leur vie qu'on peut avoir une idée de ce qui a été le tasawuf. C'est pour ça que aujourd'hui on est un peu coupé de ce genre d'exemples. C'est-à-dire, quand on voit les tariqas aujourd'hui, ce sont des gens qui se réunissent, qui prient toute la nuit.
Oui, les tariqas étant ces confréries.
Voilà. Mais il n'y a pas un véritable enseignement. C'est pas parce qu'on prie toute la nuit qu'on est dans les tariqas. Il y a quand même une autre démarche qui est liée à l'idée, ce qu'on appelle de rida. Rida, c'est la satisfaction.
L'agrément.
Voilà. Et c'est un point très important parce qu'il y a un verset du Coran qui dit « Mardi un radi un ». C'est-à-dire, vous soyez satisfait de Dieu, et Dieu soit satisfait de vous. Alors donc, il est primordial que l'homme soit satisfait de Dieu. Donc l'enseignement de Talika pour nous, c'est d'apprendre aux gens comment être satisfait de ce que Dieu lui donne, ce qu'il lui a offert, et profiter de cela comme il le faut, et le remercier comme il le faut. Donc, il ne faut pas renverser, parce qu'on dit que Dieu soit content de toi. Non, au contraire, que tu sois content de Dieu.
Aussi, c'est une sorte de satisfaction réciproque.
Absolument, c'est la clé de l'amour. Parce que si on est en état de plainte tout le temps vis-à-vis du bien-aimé, l'amour n'existe pas.
C'est vrai, et que cet agrément mutuel, cette satisfaction...
Et pour en revenir à ce qui est le sens de ta savoir, parce qu'il y a deux sciences. Il y a celui de Kral, la parole. Il y a le Hal, l'état.
Donc ta savoir... Kral ou le Hal, Kral étant la parole et le Hal étant l'état, oui.
Voilà, et donc c'est l'état qui compte. Le Kral, c'est l'outil pour avoir un état. Et cet état, c'est celui de l'amour. On ne peut pas renverser la chose. On ne peut pas prétendre d'avoir un état émotionnel de l'amour et après comprendre les choses. Non, c'est les deux. Il faut pas renverser le rôle des choses.
Carole Latifa Amir, tout à l'heure vous nous parliez du traité d'amour d'Ibn Arabi. Enfin, en réalité, c'est l'interprète des désirs ardents qu'on traduit comme ça, comme étant le traité d'amour. C'est dans lequel où... À un moment donné, on atteint un état, effectivement, où on accueille toutes les créatures de Dieu, pour le croyant, et l'univers entre en unissant dans cette effusion d'amour et de bonté.
Ce que ça m'évoque en même temps, c'est aussi cet état de l'artiste aussi, quand il est dans une période de création. Il y a ce côté d'intranquillité aussi que l'on peut ressentir dans l'état amoureux. Ce côté un peu difficile et qui est repris aussi dans l'histoire de l'art. Je pense au livre d'Ehrenzweig, L'ordre caché de l'art, où il analyse l'œuvre d'art et la démarche artistique sous l'angle de la psychanalyse. Et finalement, dans la démarche soufie, dans la conception d'une œuvre d'art, l'œuvre d'art pour nous, c'est un acte d'adoration. Hein, on l'a vu avec quand j'ai cité Ibn Arabi, où on disait que il y a cette connaissance intérieure occultée. Eh bien, en nous, cela provoque, puisqu'on parlait de l'état de Hal, de cet état-là, il y a en nous aussi la mort de beaucoup de choses. Et la renaissance.
Nous, dans c'est la chrysalide
Non, ce n'est pas vraiment une chrysalide. C'est ce que je disais dès le départ aussi, c'est sortir de sa façon de penser, sortir de soi-même. Et finalement, ce n'est pas forcément que soufi, lorsqu'on parle de la pacification de l'ego, sous l'angle de la psychanalyse, en tout cas la façon dont Ehrenzweig... analyse la création artistique, c'est ce fait de cet état-là, de tout balayer, de tuer son moi et de renaître. Et de renaître, alors chez les soufis, on dirait renaître en Dieu. Il y a toute cette réflexion-là dans la... alors, est-ce qu'on le réfléchit ou pas forcément, mais en tout cas, on le ressent. L'état amoureux, c'est ça aussi, c'est ce côté... ce grand nettoyage intérieur et pour arriver à cette renaissance.
Alors nous arrivons du terme de notre émission ensemble. Koutsir Güner, votre aventure artistique, votre aventure humaine, votre quête spirituelle, tout cela vous a amené à rencontrer des artistes reconnus. Ça va depuis... Peter Brook, Peter Gabriel, Maurice Béjart, Robert Wilson et d'autres. Comment ça a été le contact avec ces artistes aussi?
Oui, pour beaucoup.
Et je peux même en finir avec Nusrat Fatah Ali Khan. Oui. Je voulais laisser de côté pour le chant Qawwali, mais ça, on n'aura pas beaucoup de temps. Je vous en prie.
Je voudrais vous dire une chose. Quand j'ai quitté la Turquie dans les années 70... C'était un égir pour moi.
Une sorte d'égir, donc voilà, une migration.
Une migration qui m'a fait découvrir une chose. Nous subissons à des frontières culturelles, chacun. Mais ces frontières culturelles sont limitées aujourd'hui par des frontières politiques. Et j'ai découvert que mon univers culturel ne se limitait pas à la Turquie seule. Ça allait de l'Inde jusqu'à aujourd'hui, dans le temps et dans l'espace. Et c'est pour ça que je trouvais des traces, par exemple, qui me lient à l'Inde avec Babur Shah, qui avait écrit son Baburname en turc, que je pouvais lire aujourd'hui. Et aussi des artistes contemporains qui, par exemple Peter Book, qui voulait faire le Mahabharata, qui voulait faire le Conférence des oiseaux, qui était un ouvrage de Attal. Et je trouvais quand même qu'il y avait des artistes contemporains qui avaient une certaine sensibilité sans ces gens de frontières qui pouvaient aller au-delà d'une sorte de limitation d'actualité, mais qui pouvaient aller profond dans le temps et dans l'espace. Et c'est pour ça que j'ai pu réaliser beaucoup d'albums qui reflètent quand même cet élargissement des frontières culturelles. Et je pense que aujourd'hui, le nationalisme, des raisons politiques, etc., qui nous enferment dans une petite boîte, alors que l'univers est plus vaste à travers la civilisation de l'islam. Et je pourrais, si vous me permettez,
je vous en prie.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de liens entre les religions, etc. Entre les religions, théologiquement, les liens, c'est un peu difficile aujourd'hui. Mais culturellement, oui. Par exemple, récemment, j'ai fait un album sur les juifs d'Istanbul qui chantent avec les mêmes makamat que nous. Et j'ai fait aussi un album, par exemple, sur un compositeur du XVIIe siècle, Petrarque Lampadarios, qui était un joueur de ney, qui était le centre de patriarche orthodoxe, mais en même temps, il était le chef des joueurs de ney dans le Tariqa Mevlevia. Vous voyez, il y avait un lien à travers la culture et l'art. C'est ça qu'on doit développer aujourd'hui sans rentrer dans des arguments théologiques, parce que là, on sera dans des conflits.
Bien sûr, et le patriarche Athénagoras avait dit il faut mettre les théologiens sur une île déserte. Le jour où ils se mettraient d'accord, ils pourraient réinvestir le monde.
Ils ne se mettront jamais d'accord, de toute façon.
En revanche, les artistes et les musicologues comme vous, vous qui êtes maître du ney, eh bien, vous avez cette ouverture à la fois de cœur et d'esprit. Vous avez évoqué Babur Shah, vous avez évoqué Attar, le parfumeur, l'apothicaire, et sa conférence des oiseaux, ça mérite l'un et l'autre aussi des émissions ad hoc. Merci infiniment,
merci à
beaucoup.
Vous,
merci Carole,
merci.
Latifa Amir, merci Koutsier Guner. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est toujours notre amie Sylvia Favre. La prise de son est assurée par Pascal Bénard. Et la réalisation est toujours assumée par Franck Lilin.